Radio Nzuri.
Bonjour à toutes et à tous. Ici Youssef de la Terminale Commerce et aujourd'hui, on se retrouve pour notre toute première émission Web Radio. Je serai accompagné tout au long de cette émission par Karen.
Salut tout le monde.
Donc Karen, avec qui nous allons parler du tabac chez les lycéens. Il y aura aussi Magali pour nous parler de sa danse et de son groupe. Nous aurons Raphaël et Kylan pour le cinéma.
Morgane qui vous parlera du monde du tatouage, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai apprécier ce joli moment tout à l'heure.
Nous serons ensuite en compagnie de Thomas pour vous parler de son voyage en Irlande.
Sigrid qui vous parlera du célèbre manga Naruto. Nous accueillerons aussi Léo et Anthony pour nous parler du phénomène des paris sportifs.
Nous parlerons santé avec le sommeil, la cantine et la malbouffe.
On commence dans un instant avec la rubrique du tabac. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Nous allons vous parler du tabac dans notre lycée. Nous avons demandé aux élèves d'Elsa Triolet de répondre à un questionnaire. Nous avons eu 60 réponses.
Nous constatons que la moitié des filles du lycée qui ont répondu au questionnaire fument, contre un quart pour les garçons. 45% ont commencé avant 12 ans.
Et 30% au collège.
80% des fumeurs fument tous les jours, dont 3 quarts plus de 6 cigarettes par jour, mais 16 ne fument qu'en soirée.
Nous remarquons que la majorité des parents ne sont pas au courant. 72% veulent arrêter parce que ça coûte cher.
Et 27% veulent continuer parce que ça détend et qu'ils sont accros.
La moitié des jeunes de notre lycée ont déjà essayé le cannabis et 22% des sondés en fument tous les jours. C'est énorme.
Et la moitié des fumeurs de cannabis en consomment en soirée.
Sur le marché français, un paquet de tabac coûte entre 6 et 8 euros selon la marque.
Au niveau national, nous remarquons une hausse de 2% du taux de maladies liées au tabac chez les jeunes de 17 ans.
En moyenne, les jeunes français commencent à fumer à 12 ans. Et à 15 ans, ce sont plus de la moitié des jeunes qui ont déjà essayé le tabac.
La marque Philip Morris disait en 1981
« Les adolescents d'aujourd'hui sont les consommateurs réguliers potentiels de demain et la très grande majorité des fumeurs commencent à fumer à l'adolescence. »
30 ans après, cela est toujours d'actualité. Le tabac produit des effets cancérigènes de la bouche, de la langue, de la gorge, des bronches, des poumons, cardiovasculaires, risque d'infarctus, d'AVC et respiratoire.
Fumer diminue la fertilité chez la femme comme chez l'homme et avance l'âge de la ménopause.
Enfin, le tabac colore les dents en jaune. Depuis cette année, notre lycée a décidé de fermer les portes aux pauses. Grâce à ça, les élèves ne peuvent plus sortir fumer aux récréations. Cela réduit considérablement le nombre de cigarettes par jour chez les jeunes.
Nous vous rappelons que vous n'êtes pas immortels, que fumer tue à petit feu.
Merci Julie et Karen. Nous allons accueillir Magali pour sa petite chronique sportive. Let's go.
Bonjour, je vais vous parler du groupe Blendies, un groupe de danse de Chartres. Les Blendies ont été créés en 2014 par une professeure de danse avec son élève. Ils décident de former un groupe de danse de plusieurs univers, danse old, hip-hop et plus précisément new style et girly. Ce groupe est composé de 15 jeunes danseuses de tout âge. Mais tout d'abord, que veut dire Blendies? Laissons la parole au professeur.
D'où vient le nom Blendies Class?
Alors, Blendies, d'abord, c'est le B pour Bibo, qui est mon nom de scène. Le S final de Blendies pour Sunny, qui est la créatrice de Blendies avec moi. Et Blend, qui en anglais veut dire alliance, du coup l'alliance des deux, et classe par rapport aux cours qui sont mis en place.
Grâce à leur première scène de danse à la fête de la musique à Chartres, une scène en Belgique, le groupe s'est fait connaître et a pris de l'ampleur. L'année suivante, le groupe Blendies a eu l'idée de faire plusieurs catégories de groupes pour pouvoir intégrer les débutants et agrandir la communauté Blendies. En 2015, plusieurs catégories se sont créées, les débutants, les avancés curly hip-hop et les avancés new style, dance hall. Les cours ont lieu le mardi et le jeudi soir. Nous avons rencontré quelques élèves danseuses qui nous ont parlé de leur passion pour la danse.
À quel âge as-tu commencé la danse?
Alors moi, j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai commencé par faire modern jazz et ensuite je suis à Blendies et c'est trop bien quoi.
Alors moi je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. J'avais fait 5 ans de moderne tout court. Et puis il y a 2 ou 3 ans j'ai commencé Blendies.
Voilà. Donc moi j'ai commencé à danser à 8 ans avec du modern jazz pendant 5 ans et j'ai arrêté. Et là cette année j'ai commencé avec Blendies.
Alors moi j'ai commencé à mes 6 ans, enfin j'ai fait des majorettes pendant 7 ans
J'ai fait du cha-cha, du rock et j'ai commencé cette année à Blendies.
Moi, j'ai commencé la danse à, on va dire, 6 ans et demi parce que je dansais avec mes amis, mais sinon avec des profs, 8 ans.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer la danse?
C'est peut-être un truc bête, mais danser avec les stars. En fait, je les ai vus danser et ma mère me fait oh, « faut vraiment, vraiment que tu danses et tout, ça t'irait trop bien. » Et puis voilà, depuis, bah, je fais de la danse et c'est vrai que je surkiffe. C'est un moment où on se libère tout, je pense.
Moi, c'est, bah, j'ai toujours dansé tout le temps, que ce soit en cours, au lycée, n'importe où, chez moi.
Moi, je regardais souvent les clips et je m'amusais à refaire les chorés.
Moi, tout simplement, parce que je danse depuis que je marche. Enfin, je suis tout le temps en train de danser et je me suis inscrite.
Moi, c'est en regardant un film et mon père il m'a dit « faut vraiment que tu danses ».
Que ressens-tu en dansant ?
En fait, je me libère complètement. Tous les problèmes que j'ai, que ce soit personnel, tout ça, je les oublie complètement, je me libère. Enfin, c'est vraiment un moment qu'on passe tout ensemble.
Alors, quand je danse, je pense à rien du tout et c'est juste ma passion. Et genre, je veux faire ça juste toute ma vie. Si je pouvais ne plus faire de cours et juste faire ça, ce serait génial.
Quand je danse, j'oublie tout, je m'évade vraiment. Il y a un bon esprit d'équipe.
Je ressens que je suis libérée.
Aimes-tu l'esprit de groupe ?
Oui, j'aime bien l'esprit de groupe parce que quand on danse un ou deux, il y a vraiment pas beaucoup d'infinité. Donc quand on est beaucoup, ça me plaît.
Ouais, moi ça me plaît de pouvoir partager notre passion.
On s'entend toutes bien, donc franchement c'est super, il y a une bonne ambiance. Je suis d'accord avec les filles. Et puis même, s'il y en a une qui a du mal, il y en a toujours une ou plusieurs qui viennent aider. Enfin, il y a beaucoup d'entraide dans ce groupe.
Ouais, moi franchement ici il y a un bon esprit et ici il y a vraiment un bon esprit de groupe et j'adore.
Suite au succès des cours, le professeur Blendies a décidé de créer un groupe leader. Pour cela, ils ont fait audition avec des jurys, des danseurs, afin de sélectionner les meilleurs participants à cette expérience. La passion de la danse est au cœur de l'aventure de Blendies. Elle a aussi permis à une élève de professeur, nous l'avons rencontrée.
J'ai choisi la danse parce que c'est un moyen de communiquer avec les gens et avec un public sans avoir besoin de parler et de transmettre des émotions et de raconter des histoires. Donc c'est un art vraiment passionnant et je pense que seuls les passionnés comprennent ce genre de choses.
Pourquoi as-tu choisi d'être professeur ?
J'ai choisi d'être professeur parce que ça fait depuis 3 ans que je fais de la danse et que j'avais envie d'inculquer quelques connaissances que j'ai eues au cours de mes années de danse à mes élèves.
Qu'est-ce qui te plaît dans le coaching ?
Alors dans le coaching, là ce qui est appréciable en tant que prof, c'est vraiment de voir l'évolution des filles, de transmettre déjà nous notre passion et de partager ça avec elles en les motivant et de les booster au quotidien parce qu'on est là autant pour elles en danse que dans leur vie perso et c'est un plaisir de leur apporter tout ça.
Après l'évolution Blendies, en 2015, un clip avec le groupe avancé Curly Pop a été tourné. Il a eu un succès fou. Grâce à cette réussite, le groupe a commencé à intégrer des garçons afin de répondre au public et inciter les jeunes personnes à venir agrandir le groupe. L'aventure Blendies continue.
Merci beaucoup Magali.
Nous remercions aussi Chelsea qui a participé à ce reportage.
Maintenant, on accueille Morgane pour nous parler de sa passion, le tatouage.
Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sujet très abordé aujourd'hui, aussi bien chez les jeunes que chez les plus vieux, le tatouage. D'abord perçu comme une mauvaise image pour certains, comme un signe religieux pour d'autres, je vais décrypter le vrai du faux pour vous.
Hey Morgane, c'est quoi l'histoire du tatouage ?
Eh bien justement, pensez-vous que le tatouage a un rapport à la religion ? Eh bien oui, parce qu'il s'agit d'abord d'un signe religieux reconnu des tribus tribales. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ce style, je suppose. Et dans l'histoire, les pirates, les prisonniers ou encore les légionnaires portaient des tatouages.
Ce n'est donc pas lié à une mauvaise image.
Au contraire, ce que les gens perçoivent de mal, étrange, c'est simplement lié à la nouveauté et à la façon dont les générations suivantes se sont appropriées le tatouage, comme notre génération. Et pour partir un peu plus loin, nous ne savons pas réellement la date exacte à laquelle il a été inventé, mais cela date d'au moins 3500 avant Jésus-Christ.
Et comment savons-nous cela ?
Un cadavre datant de 3500 avant Jésus-Christ a été retrouvé gelé dans un glacier. Il portait des tatouages. Des momies aussi ont été retrouvées avec des tatouages sur le corps. Petite anecdote, pour les originaires de Bretagne, en France, les Bretons sont les premiers tatoués au début de notre ère, vers le 3e siècle.
Et maintenant ?
Pour revenir à maintenant, le tatouage se rattache à plusieurs valeurs différentes, puisque je le disais juste avant, les générations suivantes se sont appropriées le tatouage. Ainsi, il se démocratise petit à petit. Je dirais qu'il s'est démocratisé grâce à notre fabuleux mondial du tatouage, qui annonce bientôt sa 8e édition. J'ai participé à 3 de ces éditions et je peux vous dire que l'évolution est flagrante, étant donné que ces 3 dernières années ont été décisives dans ce facteur d'évolution. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, de nouvelles activités sur place, de nombreux et de nouveaux tatoueurs encore plus perfectionnés. Cette manifestation a joyeusement permis de prétendre être catégorisé comme un véritable art. En effet, les réalisations travaillées au préalable et réfléchies aboutissent à une œuvre d'art sur peau. Personnellement, je trouve qu'un dos complet réaliste correspond parfaitement.
Les tatoueurs en sont les premiers au courant, dont mes amis tatoueurs. Étant apprentie tatoueuse et appuyée par plusieurs d'eux, j'ai eu le droit d'obtenir quelques conseils de chacun d'entre eux.
Mon tatoueur, que j'appellerai C, vous conseille, je cite, de ne pas vous faire tatouer par effet de mode. C'est débile, comme pour cette histoire d'Infinity. Fin de citation. L'Infinity, c'est-à-dire le signe infini, c'est un peu le stéréotype d'une mode du tatouage de nos jours. Anton, un début dans le métier, vous dit, je cite, « Banaliser le tatouage qui reste une activité indélébile n'aide pas à retirer ce stigmate donné au tatoué. » Fin de citation. Il veut nous dire par là qu'il s'agit d'un acte qui doit être mûrement réfléchi et non infantile. Je vous conseille, moi, tatouer, c'est une passion et non une mode à laquelle il faut se prétendre attaché. Pour conclure, le tatouage, c'est un art composé de multiples styles et de domaines dans lesquels chaque artiste tatoueur se rattache plus ou moins, comme par exemple le tribal ou plus récemment créé le trash polka.
Merci beaucoup Morgane. Combien as-tu de tatouages ?
J'en ai 6.
Eh bien merci encore. Nous passons tout de suite à la rubrique cinéma de Kylan et Raphaël.
Salut les gars, on vous écoute.
Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique cinéma du lycée Elsa Trulé. Aujourd'hui, nous allons parler des suites, remakes ou films qu'on dit de trop. Je suis en compagnie de Kylan, avec qui je vais débattre.
Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez ou non, une nouvelle trilogie Alien a été récemment annoncée. Il existe déjà 4 films, dont Alien Premier du Nom, sorti en 1979, le 2 sorti en 1986, Alien 3 en 92 et Alien 4 La Résurrection en 97. Il y a aussi Prometheus en 2012. On arrive aux 40 ans de la saga et on nous apprend qu'il y a encore 3 films de prévu. Tu trouves pas que ça commence à s'étouffer ?
Effectivement, en plus de déjà 3 spin-offs, dont Alien vs Predator et Alien vs Predator 2, on nous balance 3 nouveaux films, mais le premier de cette trilogie est dirigé par Ridley Scott, le réalisateur d'origine.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour les fans. De plus, il sera c'est un préquel de Alien 1. Sauf que c'est devenu la mode de faire des films, des suites ou des remakes et que ça en devient lassant.
Films d'horreur classiques comme Les Dents de la Mer. Le premier réalisé par Spielberg en 1975 était réussi, les suites ont été croquées par les critiques et pourtant il y a eu des suites, tout comme Matrix avec l'opus numéro 2 et 3 qui ont été déçus par les fans. Enfin,
en fait, les réalisateurs savent que le ou les premiers films ont eu tellement de succès qu'il n'y a aucun risque pour eux à faire une suite parce que tout d'abord ils font du bénéfice avec les sorties en salle. Jurassic Park 3 en 2001 a par exemple rapporté 370 millions de dollars alors qu'il était très mal reçu par les critiques et les spectateurs.
370 millions, c'est énormément d'argent, et justement, c'est leur motivation principale pour faire les suites. On se demande si la passion du métier est toujours là. Terminator est un bon exemple, puisqu'on sent que le 5 est un réchauffé des précédents, mais puisque c'est Terminator, on s'en fiche, on sait que ça va apporter de l'argent.
Oui, voilà, tout comme les X-Men, il y a plusieurs films sur Wolverine qui n'ont pas grand intérêt. Il y en a même un qui a reçu de très mauvaises critiques, car il s'éloignait fortement de l'histoire originale. Même si cela a été rattrapé avec le dernier.
Nous pouvons aussi parler du film récent Ça, sorti en salle le 7 septembre 2017, qui devrait d'ailleurs lui aussi avoir une suite en 2019, lui-même adapté de la série de 90 Il est revenu, de Tommy Lee Wallace, qui est lui-même inspiré du roman de Stephen King en 86. Toi, Kylan, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est un bon film. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais il vaut la peine d'être vu pour les fans de films d'horreur, ou même les fans du roman. J'ai été déçu par la fin du film, mais c'est un bon film en général. Je vous conseille de lire le roman avant.
Oui, c'est exact. Donc merci Kylan, c'était un plaisir de parler de ce sujet avec toi. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma.
De rien Raphaël, à bientôt.
Merci les gars. Dis-moi Karine, est-ce que tu dors suffisamment ?
Bah écoute, je pense que oui, mais on va vérifier ça avec l'intervention de Sloane et Océane qui vont nous parler du sommeil chez les jeunes.
Salut les filles, alors on vous écoute.
Bonjour tout le monde. D'après des études scientifiques, pour un bon développement, les enfants et les adolescents ont besoin d'au moins 11 heures de sommeil pour les enfants de 12 ans, 10 pour les jeunes de 14 ans.
Le manque de sommeil pour les adolescents est un problème inquiétant car ils sont des individus en pleine construction et en pleine maturation au niveau psychologique.
Dormir moins de 6-7 heures par jour a des conséquences néfastes sur la santé des adolescents et peut aussi provoquer des problèmes comme l'obésité par exemple.
Les Français ne dorment que 7h et 47 minutes par jour en moyenne. Pour avoir un meilleur sommeil, il est recommandé de couper les connexions avant le coucher. À la place, lisez un livre par exemple.
Suite à ces recherches, nous avons interrogé certains élèves du lycée pour voir s'ils dorment suffisamment et quelles sont leurs habitudes de sommeil.
Bonjour, puis-je vous poser des questions? À quelle heure dormez-vous?
22h30, 23h.
Vers 23h, 23h30.
Alors, je me couche vers 1h du mat à 22h.
À 23h.
Vers 22h, 22h30.
1h ou 2. À quelle heure vous réveillez-vous?
6h30, 7h30.
Vers 5h45. 6h15.
Avez-vous du mal à dormir?
J'ai un peu de mal à dormir, ouais.
Oui, je pense que j'ai du mal à dormir.
Non?
Ouais, j'ai pas mal de mal à dormir.
À quelle heure dormez-vous le week-end?
Vers 2h, 2h30.
Vers 2-3h.
Vers 4h.
À quelle heure vous réveillez-vous le week-end?
Bah, on réveille à 10h.
Bah, pour récupérer de ma nuit, je me réveille vers 11h, 11h30.
Souvent à 14h.
Et je m'élève vers 9h, 8h.
Vers 13, 14h.
Nous avons constaté que la plupart des élèves ne dorment pas assez et plutôt mal. Du coup, pour cela, nous avons quelques conseils pour améliorer votre sommeil.
Nos 5 conseils pour bien dormir la nuit.
Ne pas se coucher trop tard, c'est-à-dire avant 23h.
Dormir dans l'obscurité, car on est sensible à la lumière.
Éviter les écrans au lit, sinon le cerveau reste en alerte.
Ne pas faire de sport. Le soir, cela retarde l'endormissement.
Adopter une bonne hygiène de vie permet de favoriser le sommeil de qualité. Nous espérons qu'avec nos conseils, vous ferez de beaux rêves.
Merci beaucoup les filles. Mais vous, respectez-vous ces conseils?
Moi non.
Moi non plus.
Merci pour cette intervention. Ne faites pas comme ces demoiselles et respectez les 5 consignes.
Toujours pour la santé, nous allons écouter Marion, Mylène et Elisa sur la malbouffe.
Au jour d'aujourd'hui, peu de personnes mangent en famille. Cela incite les adolescents à manger des plats rapides et pas forcément très sains pour leur santé. En 2013, 61% des jeunes ne déjeunent pas le matin, 77% ne goûtent pas et ils sont 35% à manger pour se distraire, à grignoter entre les repas. Nous avons réalisé une petite enquête auprès des adolescents pour connaître leurs habitudes alimentaires. Voici les réponses données par les adolescents interrogés.
Quelle boisson buvez-vous ?
Moi je suis plutôt estime.
Je bois toutes les sortes de boissons, surtout les coca.
De tout. De l'eau.
Du coca.
Oasis.
Coca.
Mangez-vous au moins 5 fruits et légumes par jour?
Non. Non, franchement non.
Non. Non.
Oui.
Oh non.
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 Non. Mangez-vous entre les repas?
Beaucoup.
Plusieurs fois je grignote, oui.
Non.
Ah ouais.
Ça dépend des fois.
Oui.
Oui.
Ouais.
Un petit peu, oui. Est-ce que ça vous arrive de sauter des repas? Si oui, lequel?
Le déjeuner.
Oui, le soir.
Le dîner. Je déteste manger le soir. Avant de dormir.
Des fois, je mange pas le midi. Et des fois, je mange pas le soir.
À part le petit-déj, c'est tout.
Oui, le matin.
L'infirmière du lycée Elsa Triolet va répondre à une interview afin de comprendre comment manger en prenant des plaisirs et connaître les risques sur la santé.
Quels sont les risques pour la santé à force de se nourrir pas correctement?
Alors, les risques, c'est éventuellement l'obésité, hein, de par l'augmentation de l'apport en graisse, donc qui peut apporter aussi du coup des maladies cardiovasculaires. Le cholestérol, donc c'est le gras en fait qui s'accumule, on va dire, et qui bouche les artères, donc du coup qui peut provoquer des infarctus. Donc souvent dans ces plats préparés là, hein, faciles d'accès, il y a aussi beaucoup de sel en fait, et donc ça augmente le risque d'hypertension ou d'insuffisance rénale. Et donc l'augmentation de sucre, je parlais d'obésité tout à l'heure, effectivement ça peut engendrer un diabète. Et puis souvent on est aussi en manque de vitamines et de sels minéraux quand on ne se nourrit pas en fait correctement.
Quels sont les aliments les plus sains et les plus essentiels pour la santé ?
Les aliments qui sont composés, on va dire, de lipides, de glucides, de protides, alors de la matière grasse, il en faut, mais en quantité raisonnable. Voilà, il faut tout ça, on va dire, dans une alimentation normalement équilibrée, pour ne pas être en manque et en carence, justement.
Par rapport à la tranche d'âge de 13-18 ans, quels sont les apports les plus importants ?
Alors, les apports les plus importants à l'adolescence, en fait, comme c'est une période de la vie où les besoins nutritionnels sont très importants, parce que vous êtes en pleine croissance, alors il faut du calcium, tout simplement pourquoi ? Pour la masse osseuse, hein, qui est en augmentation à la puberté, donc à l'adolescence. En général, il est préconisé 4 produits laitiers par jour. Ensuite, il faut absolument aussi ne pas être en carence de fer. Après, essentiel, c'est la vitamine D. En fait, s'il y a un déficit combiné avec celui du calcium, en fait, ça limite la croissance, l'accroissement, on va dire, de la masse osseuse de l'adolescent dont on vient de parler.
Combien de verres de jus ou de soda maximum pouvons-nous boire par jour ?
Alors, normalement, pas plus d'une boisson, on va dire, par jour. Que c'est hyper sucré en général, hein, tout ce qui est jus de fruits, soda, n'en parlons pas, le sirop dans de l'eau, c'est pareil, c'est du sucre que l'on rajoute, parce que y a toujours ce risque de développer un diabète plus tard. Hein. Donc, sachant que vous savez, dans une canette de coca par jour, ce qu'il y a comme quantité de sucre, il y a 13 cuillères à café de sucre, c'est énorme. L'idéal, c'est de boire de l'eau, c'est neutre, l'eau. Et on va dire, tout ce qui est boisson sucrée, on réserve de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit du systématique à chacun des repas. Quoi.
Est-ce que manger que des fruits et légumes par jour serait suffisant ?
Non, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait beaucoup plus que des fruits et des légumes, hein, puisque là, il y aurait des carences sinon dans certains on va dire, apports. C'est que de la vitamine, c'est que de la fibre. Donc, on a besoin d'autre chose.
Avez-vous un exemple de repas idéal à proposer ?
Le repas idéal, en fait, faut que ça soit un repas, on va dire, équilibré. Le repas idéal, ça serait, en entrée, on va dire, un légume cru ou cuit, et ou cuit. Ensuite, pour une source de protéines animales, ça va être de la viande ou du poisson ou des œufs. En accompagnement, eh bien, on va prioriser mélange féculent légumes verts. Et puis un produit laitier, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Et terminer par un fruit, alors cuit ou cru, à nouveau, peu importe. Voilà, ça c'est le repas, on va dire, idéal, équilibré.
Est-ce qu'il faudrait manger à heure fixe ?
Alors, c'est conseillé pour une meilleure digestion. Parce que les gènes du foie, en fait, qui est un organe qui nettoie l'organisme, s'activeraient plus facilement de cette façon-là, à manger à heure fixe. Voilà.
Nous pouvons en conclure que très peu d'adolescents se nourrissent sainement et beaucoup trop de personnes se nourrissent mal. Ils sautent des repas ou alors ils boivent et mangent trop d'aliments sucrés.
Tout cela est très intéressant. Merci les filles. Nous allons enchaîner sur un sujet similaire, toujours de la nourriture, mais cette fois-ci à la cantine dans notre lycée.
Alors, selon une enquête de l'association CLCV, plus de la moitié des jeunes du secondaire jugent les repas scolaires mauvais et peu roboratifs. Plus de la moitié des collégiens et lycéens se plaignent de la cantine. 48% d'entre eux disent avoir encore faim après le repas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on leur propose. 38% jugent les quantités servies insuffisantes. Et 14,5% évoquent les deux. Nous avons interrogé quelques élèves pour vous.
Alors, comment trouves-tu les menus que la cantine propose ?
J'aime bien.
Pas terrible, ça pourrait être mieux.
Bah, je trouve qu'ils sont simples, mais assez variés, du coup, je trouve ça pas mal.
Assez variés, ça dépend des jours.
Bah, ils sont pas mal.
Dégueulasse.
Soit tout est bon, soit tout est mauvais.
Ils sont pas tous très bons.
Il y en a ça va, mais il y en a c'est pas très bon.
Trouves-tu qu'il y a assez de choix ?
Oui.
Oui, en choix, ça va, il y a assez.
Oui, bah, ça dépend, mais souvent, c'est pas mal.
Comme la réponse d'avant, ça dépend des jours.
Pas tout le temps.
Ah non, pas du tout.
Oui, il y a souvent différentes entrées, différents desserts et différents plats.
Non, pas trop. Il n'y a pas trop de plats pour ceux, par exemple, qu'ils n'aiment pas. Si y a un plat que les gens n'aiment pas, bah, ils ne peuvent pas avoir autre chose.
Trouves-tu que les repas sont bons?
Ça dépend.
Ça dépend du jour.
Pas trop.
Oui.
Ça dépend des jours.
Ah non. Serais-tu intéressé par des repas à thème?
Non.
Oui, je serais intéressé, oui.
Bah oui, pourquoi pas. Après, je sais pas comme pays, qu'est-ce qui pourrait être représenté, mais ça pourrait être pas mal.
Ça serait bien, oui.
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 Non, pas spécialement.
L'enquête montre que les plats préparés sur place sont mieux appréciés que les repas livrés depuis des cuisines centrales. Malgré les messages nutritionnels, le menu préféré des élèves reste quiche ou pizza en entrée, frites pour l'accompagnement et pâtisserie en dessert. Nous allons donc, comme vous l'avez compris, vous parler des repas de la cantine grâce à une interview du personnel qui élabore et prépare les menus.
Comment élaborez-vous les repas ?
Le cuisinier doit respecter la fiche technique, tout ce qu'il a mis dedans, sans rien rajouter de plus lui. S'il veut faire un petit truc personnalisé à lui qu'il veut remettre, il ne peut pas. Parce qu'il y a les allergènes à respecter maintenant. Ça, il y a tout ce qui est parti commande fournisseur. Après, donc, on réceptionne la marchandise là, donc c'est Fabienne, ma collègue. Tout se fait réceptionner là, qu'on appelle la marche en avant, parce qu'il faut respecter la marche en avant. Il n'y a pas de produits croisés pour des contaminations, quoi. Donc on réceptionne là, on fait des relevés de température. C'est surgelé, il faut bien que ça soit à moins 18, bien respecté. Les produits frais à plus 3. Des cartonnages, et des cartons, et stockage dans les frigos. Après, le lendemain, je lui ai fait ma petite liste de ce qu'il faut qu'elle sorte. C'est ce qu'on appelle, c'est le magasinier, quoi. Il fait ça, le magasinage, il sort. Je lui ai fait ma petite liste, elle me sort tous les ingrédients. Moi, ça part en cuisine. Tout ce qui est légumes, c'est Fabienne qui s'en occupe. Les légumes partent en légumerie. Ils ne doivent pas rentrer en cuisine. Les légumes sont lavés, décontaminés dans la salle de légumerie. Et après, on les procède. S'il y a des coupes à faire, les courgettes, les coupes, tout ça, on les coupe. Et après, ça passe en cuisine, en fabrication. Donc après, tout ce qui va avec l'hygiène. Hein. On a un coût à respecter.
Voilà.
On ne dépasse pas trop, bah, on reste dans les marges.
Seriez-vous prêt à proposer plus de choix?
Au niveau choix, bah, en entrée, il n'y a pas de problème. On peut faire 4, 5 choix. Et plus il y a de choix, plus risqué d'y avoir de reste, plus risqué d'y avoir de... En petit lycée, c'est sûr que c'est un ou deux entrées, voire trois. Nous, il y a toujours moyen de mettre une entrée en plus, partir sur trois entrées, voire sur quatre.
Seriez-vous prêt à faire de nouveaux repas, comme des repas à thème?
Donc normalement, ça va être prévu, on va faire des menus à thème. Des menus anglais, menus portugais, ça sera fait une fois par mois, voire deux. Ça, il n'y a pas de souci.
Avez-vous des contraintes et des règles à respecter dans la préparation des repas?
Après, vous, des contraintes, bah, tout ce qui est contrainte à respecter en préparation, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, toutes les normes HACCP qu'on appelle ça. Voilà.
Merci.
Merci pour toutes ces informations très intéressantes, les filles. Nous allons maintenant donner la parole à Cédric et Julie qui vont nous parler du manga Naruto.
Bonjour, Naruto est un manga shonen qui veut dire manga pour adolescents, écrit et dessiné par Masashi Kishimoto qui a été prépublié entre octobre 1999 et novembre 2014. Le créateur de Naruto s'est inspiré du manga très aimé Dragon Ball Z.
Quelle est l'histoire du manga Naruto ?
Dans le manga, il y a des clans qui sont des familles, qui ont pour certains un don héréditaire, donc de sang, comme le clan Uchiwa et le clan Hyuga. Le début de l'histoire se centre sur le personnage principal, Naruto Uzumaki. C'est un gentil gamin, un peu espiègle, qui veut être respecté par toutes les personnes de son village. Naruto ne rêve que de devenir Hokage, le ninja le plus puissant de son village. On ne sait pas s'il y arrivera un jour, il avance avec sa double quête, être respecté par les gens de son village, et réussir à faire revenir Sasuke Uchiha qui est parti du village.
Il y a combien de tomes ?
La série a été compilée en un total de 72 tomes.
Y aura-t-il une suite de cette série ?
Oui, il y a une suite avec les enfants des héros principaux et secondaires qui s'appelle Boruto.
Le manga Naruto a-t-il eu du succès ?
L'histoire de Naruto, 19 ans cette année, est une success story qui a propulsé son créateur Masashi Kishimoto sur le podium des plus grosses fortunes japonaises.
Et toi Cédric, que penses-tu de ce manga ?
Personnellement, j'adore ce manga car l'histoire est formidable, touchante, à la fois fantastique et à la fois réaliste. Après, il faut aimer tout l'univers du manga, les héros avec des pouvoirs, etc.
Je suis ton avis, Cédric. C'était une rubrique très intéressante. Merci beaucoup. Nous passons à une rubrique sportive présentée par Léo et Anthony. À vos paris.
Bonjour à tous. Alors, un pari sportif consiste à miser de l'argent sur un événement lors d'une rencontre sportive. Il existe de nombreux types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire d'une équipe précise. Chaque pari a une cote et c'est elle qui permet de connaître à l'avance, en fonction de la somme misée, le montant gagné si l'événement se produit.
Les paris sportifs étaient interdits en France jusqu'en juin 2010, la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Pour mieux comprendre comment fonctionne un pari sportif, je vais prendre un exemple avec une mise de 10 euros. Le gain sera cote fois mise. Par exemple, vous pariez 10 euros sur la victoire de A et la cote est de 3. Si A gagne, vous recevez un gain de 10 fois 3, c'est-à-dire 30 euros. En tenant compte de votre mise de départ, vous avez donc gagné 30 moins 10 euros, ce qui vous revient à 20 euros.
Les Romains étaient les premiers parieurs, surtout grâce aux fameux combats de gladiateurs, dont les plus anciens datent de 264 avant Jésus-Christ.
Le pari sportif est maintenant ancré dans votre vie. Sur toutes les plateformes audio et visuelles, nous pouvons constater l'influence du pari en France. Les lois ont changé depuis 2010. Suite à la Coupe du Monde, la France autorise la Française des Jeux à parier sur des événements sportifs. Puis à force, de plus en plus de bookmakers se mettent à se lancer dans des paris. À l'heure actuelle, plus de 10 bookmakers se disputent le marché des paris. Le marché des paris a augmenté de plus de 36% ces 5 dernières années, avec la conséquence comme l'endettement, l'addiction et la dépendance.
Les paris sportifs ont aussi été au devant de la scène lors notamment de paris truqués comme avec l'affaire Nicolas Karabatic, joueur de handball professionnel dans l'équipe de France. Daniel Quarelier, tennisman autrichien, a été banni à vie après avoir truqué 3 matchs entre 2009 et 2011. Le club italien de la Juventus de Turin a été condamné à être relégué en série B italienne après avoir truqué plusieurs matchs lors de la saison en 2006-2007. Il existe aussi des paris insolites. Énormément de paris ont été effectués sur la naissance de l'enfant de Kate et William, des paris sur le sexe de l'enfant ou même du prénom qui serait choisi. Les records de gains sont détenus par les sites BetClick, 295 709 euros, le PMU 198 272 euros et Winamax 132 098 euros.
Et pour rappel, les paris sont interdits aux mineurs.
Merci les garçons. En effet, le phénomène des paris sportifs est en pleine expansion et accessible à tous. Merci beaucoup.
Maintenant, nous allons donner la parole à Thomas qui va nous parler de la section européenne et du voyage en Irlande.
Bonjour à tous, la section européenne est composée de 8 élèves volontaires de première et de terminale du lycée. Nous avons 2 heures supplémentaires dans la semaine pour pouvoir pratiquer nos matières professionnelles en anglais. Pour cette rubrique, nous avons interviewé 2 membres de la section européenne, Karen et Alicia.
Pourquoi avoir choisi cette option ?
C'était en rapport avec le BTS que je voulais faire l'année prochaine. Couverture internationale.
D'accord. Cela te plaît-il ?
Oui, beaucoup.
Est-elle bénéfique pour ton projet professionnel ?
Ben oui, il n'y a que du plus.
Et as-tu des appréhensions avant de partir en Irlande ?
Un petit peu la barrière de la langue et le fait de partir loin de ma famille.
Le temps de stage est-il long pour toi ?
Non, je trouve pas.
Cette option permet de faire notre stage de première en Irlande à Dublin. Ce stage permet de découvrir une nouvelle culture et de nouvelles méthodes de travail dans différents domaines. Nous travaillons aussi avec l'assistante américaine, qui a été bénéfique pour nous car elle a réussi à nous mettre en confiance avec la langue. Pendant mon séjour en Irlande, j'ai interviewé Madame Kenny.
How long have you been welcoming students?
Possibly around 13 years now.
Why did you choose to host students?
Always had children from the time I was a child. My parents always taught them.
Have you welcomed students from other countries and other ages?
All over.
Donc, Madame Kenny, maman d'une famille d'accueil, nous a expliqué qu'elle accueillait des étrangers de n'importe quel pays depuis 13 ans. Elle a choisi d'accueillir des étudiants car depuis son plus jeune âge, elle est entourée de jeunes. Donc n'hésitez pas à participer à la section européenne, c'est vraiment enrichissant, tant sur le plan personnel que professionnel.
Je vous l'affirme, l'Irlande est un très beau pays d'accueil, on a vraiment bien profité et beaucoup appris sur nous-mêmes. Nous remercions également tous les 8, les professeurs d'anglais Euro, Madame Guillaume et Madame Richard, sans qui cette expérience n'aurait pas eu lieu.
Notre émission touche à sa fin. Information de dernière minute. Je laisse la parole à Cydrit. À Morgane, excusez-moi.
Annonce spéciale, avec l'appui de notre conseillère principale de l'éducation, Madame Dayan, nous sommes en plein préparatif d'un bal de fin d'année qui se déroulera après les examens, donc avant les résultats. Nous aurons besoin d'élèves volontaires pour nous aider dans les préparatifs. Nous comptons sur votre participation. Merci. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous.
Nous espérons que nos chroniques vous ont plu.
Et que vous avez pris plaisir à nous écouter.
Nous vous remercions et on vous dit à bientôt.